Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Les 8, 9 et 10 juin dernier a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la 8e conférence des ministres du Comité de coordination et de promotion de l'artisanat africain au CODEPA. Pendant 3 jours, des responsables gouvernementaux et des experts ont réfléchi à la question fondamentale de la promotion de l'artisanat en Afrique. Le coq chante était de la partie.
Bonjour, chers participants. Bonjour, pays hôte. Au nom du ministère de l'Entrepreneuriat national.
On définit l'artisanat comme toute activité économique que l'homme fait avec ses 10 doigts, à l'exclusion de toute production manufacturière. Quand on regarde attentivement la structure des économies nationales en Afrique, il est clair que l'artisanat est un secteur important. On estime que 40% de la population active se trouve dans ce secteur. Ce chiffre est déjà édifiant, mais il faut également tenir compte de ce que les spécialistes appellent le secteur informel, c'est-à-dire tous les acteurs qui ne sont pas pris en compte dans les petits papiers de l'administration. Ce type de rencontre internationale se fait en 2 temps. Les 2 premiers jours pour les travaux des experts, le 3e jour pour la rencontre des ministres. Le 3e jour donc, après la cérémonie solennelle d'ouverture, les explications du Cipier Théophile, qui est secrétaire général de ce CODEPA.
Le CODEPA, c'est le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, qui regroupe à son sein 26 pays d'Afrique, répartis dans les 4 régions d'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, avec comme délégué régional la Guinée-Conakry, l'Afrique centrale, avec comme délégué régional le Gabon, l'Afrique australe et orientale, avec comme délégué Madagascar, et l'Afrique du Nord, avec comme délégué l'Algérie.
Et ce CODEPA est né quand?
Le CODEPA est né en marge du 3e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou en 1992. Et à cette époque, les acteurs de l'artisanat avaient trouvé nécessaire de se regrouper donc au sein de cette organisation afin de réfléchir et trouver des moyens de promotion de l'artisanat africain.
Depuis 1992, le CODEPA est né. Depuis toutes ces années-là, on parle du développement de l'artisanat. Qu'est-ce qui coince?
Bon, ça coince, mais c'est ce que je dis. Hein. D'une région à une autre, il y a une différence. Parce que quand vous prenez l'espace Yomoa, ils sont très avancés parce que le CODEPA avait mis en place un programme d'appui aux petites entreprises et à l'artisanat. Yomoa a trouvé ce programme très pertinent et il est en train de l'exécuter sur le terrain au niveau des 8 États membres de Yomoa.
Quand moi je revenais à la conférence, à la 8e conférence des ministres, et ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est pour chercher l'argent pour développer l'artisanat. Est-ce que c'est un bon résumé?
Non, c'est pas ça. Il faut peut-être trouver des mécanismes qui permettent aux artisans d'avoir un accès très facile au crédit. Or, généralement, l'artisan est considéré comme un acteur du secteur informel, donc qui ne tient pas de comptabilité, qui n'a pas une organisation formelle, comme ils aiment le dire. Et c'est pour cela qu'il faut créer des cadres, vraiment une organisation beaucoup plus poussée pour permettre aux artisans d'avoir accès. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité les institutions financières de l'Afrique pour qu'ils viennent nous parler de quels sont les mécanismes les plus adaptés au financement du secteur de l'artisanat.
Entre autres objectifs majeurs, cette 8e conférence des ministres avait pour but de définir un plan pour mobiliser des ressources techniques et financières dans le cadre de la mise en œuvre des axes d'intervention, à même de permettre au CODEPA, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et les États membres, d'assumer pleinement son rôle d'appui au développement et à la promotion de l'artisanat en Afrique.
Nous sommes arrivés à certains principes que les institutions financières ont souhaité. Avant que les artisans puissent avoir accès au financement, il faut que les artisans même se structurent, il faut qu'ils soient plus formels, ainsi de suite. Donc il appartient maintenant aux politiques, au niveau de chaque État, de formaliser, de mener des actions dans le cadre de la formalisation même de ce métier.
Mais ça, c'est un changement de mentalité. Vous devez sensibiliser les artisans et lui dire, ce que tu fais, ce n'est plus le folklore que tu faisais de père en fils, mais maintenant, tu es une entreprise.
Exactement. Ce sera le rôle des États, à travers le CODEPA, va organiser des thématiques par rapport à cela, pour que chaque État membre du CODEPA puisse donner des informations, sensibiliser les artisans afin qu'ils s'organisent, soit individuellement en créant une entreprise individuelle, soit par groupement, mais comme je vous l'ai dit tantôt, en GIE, en groupement d'intérêt économique.
On est un peu pressé, quand est-ce que tout cela va porter des fruits ou bien vous n'avez pas fixé un calendrier?
Je crois que ça, c'est déjà, ce cadre-là est déjà un cadre qui permet de créer. Aujourd'hui, si vous allez en Afrique centrale, l'artisanat a beaucoup évolué. Et l'artisanat a beaucoup évolué. Et le ministre camerounais aimait à le dire. Et si les autorités camerounaises ont compris l'importance de l'artisanat, c'est grâce au CODEPA. Parce qu'il a participé à son premier salon international de l'artisanat à Ouagadougou en 2006, au cours de laquelle il a pu participer à la première réunion de la conférence des ministres. Et depuis lors, il a fait un plaidoyer pour la promotion de l'artisanat. Il en est de même pour Congo-Brazzaville.
Je vous remercie, je vous laisse parce que le protocole vous attend.
C'est ça, merci monsieur. Allez.
Cette 8e conférence des ministres du CODEPA enregistre la présence de représentants de 22 pays africains, du Conseil mondial de l'artisanat, des structures sous-régionales comme la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et des institutions financières, à savoir la BCAO, la BAD et la BOAD. Tabouna Honoré travaille à la CEAC à Libreville en qualité d'expert de la valorisation de la biodiversité et l'économie de l'environnement.
Comme vous l'avez bien suivi depuis hier, l'objectif, c'est de mettre les bases pour accélérer le développement et la promotion de l'artisanat. Et surtout, des bases qui doivent être alimentées par des actions concrètes. Parce que depuis les années 2000, qu'on parle donc du CODEPA, on parle des voies pour le développement et la promotion de l'artisanat, mais nous n'avons pas encore vu les actions concrètes. Donc cette conférence est un tournant. En tout cas, doit être un tournant pour atteindre ces objectifs. Procéder donc au développement ou bien à la mise en place des outils pour le développement. Alors, parmi ces outils, il y a le programme de développement de l'artisanat africain qui va être alimenté par le programme de développement de l'artisanat en Afrique centrale qui a été adopté par les ministres de la CEAC en février 2012 et encadré par une décision des chefs d'État de la CEAC en mai 2015. Alimenté également par le programme d'appui aux petites entreprises africaines qui est un programme de l'UEMOA. Alors, donc, cet outil va donc être la base pour accélérer le développement de l'artisanat africain. En tout cas, nous attendons beaucoup, puisque, comme vous le savez, au moins 40% de la population active de nos États est employée dans l'artisanat. À ce titre, l'artisanat constitue donc un outil efficace pour la réduction du chômage. C'est-à-dire que la communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment son secrétariat, a signé le 2 février 2012 à Brazzaville un mémorandum d'entente. Et l'UEMOA travaille également avec CODEPA. Mais nous devons donc étendre cela aux autres communautés économiques régionales, la CDAO, la SADEC, l'IGAD et East African Community. Parce que le CODEPA sera demain le maître d'ouvrage, mais le CODEPA devrait travailler en collaboration avec les communautés économiques régionales pour une mise en œuvre visible et lisible au niveau de chaque État membre.
Si j'ai bien compris, jusque-là, les experts se sont réunis, ils ont travaillé, on a tracé des pistes, style protection sociale des artisans, style comment financer les artisans. Et maintenant, on a la somme de tout cela et vous dites maintenant, on passe à l'action.
On passe à l'action. Vous savez, le 12 décembre 2015, le monde est rentré dans une nouvelle révolution, qui est la révolution industrielle de l'économie verte. Et ça veut dire qu'une économie qui produit moins de CO2. Et à ce titre, l'artisanat fait partie de ces outils de production qui produisent moins de CO2. Donc c'est une opportunité.
En tout cas, ce n'est pas industriel.
Tout à fait. Donc ce qui fait qu'on doit maintenant passer aux actions. Parce que c'est fini maintenant, disons, l'artisanat des discours, l'artisanat de conception, l'artisanat de théorie. Donc on a beaucoup réfléchi. Maintenant, il faut passer aux solutions. aux actions. Et ça passe par le programme. Donc tous les éléments que vous venez de citer qui font blocage au développement de l'artisanat, l'accès au financement, l'inorganisation, le manque, disons, d'expertise, doit soutenir le programme. C'est à l'intérieur du programme. Donc il y aura un axe, par exemple, pour le financement, un axe pour la formation, un axe pour renforcement de capacités, un axe pour la recherche, un axe pour la promotion, un axe pour le marketing. Un axe aussi pour les infrastructures commerciales, parce qu'aujourd'hui, ils sont éparpillés dans les villes, c'est très difficile de les recenser, c'est très difficile d'accéder à ce. Donc, en les regroupant, on va centraliser beaucoup de leurs activités. Je donne un exemple. Pour, par exemple, l'exportation, ils pourront avoir au sein de ce, disons, de cette zone de regroupement une centrale d'exportation. Ils pourront avoir également au sein de cette, cette zone de concentration un atelier, par exemple, de formation. Hein, voyez-vous. Donc, c'est avec cette organisation que nous tenons, à partir.
Depuis hier, tous ceux qui sont réunis ici ont ce mot à la bouche. Il faut qu'on ait un résultat.
Bien sûr, il faut qu'on ait un résultat. Vous savez, l'artisanat, les petites entreprises font partie du patrimoine africain. S'il y a du pétrole dans tel pays, il y a des pays qui n'ont pas de pétrole. Mais par contre, nous sommes tous persuadés qu'il y a l'artisanat dans tout le pays. Donc maintenant, il faut aller vers les résultats, il faut aller vers les solutions. Une fois qu'on a dit ça, on est resté sur la théorie, on est resté sur l'approche anthropologique, ethnologique. Il faut passer maintenant à l'approche économique réaliste, visible. Il faut maintenant qu'on sache qu'on a investi massivement. Aujourd'hui, nous sommes tous des élites, mais nous savons que c'est l'artisanat qui nous a formés, qui nous envoie à l'école, dans nos pays, à l'extérieur. Il est grand temps de rendre à l'artisanat ce qu'il a donné aux élites, disons, africaines.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
L'idée de propriété intellectuelle est une nouveauté qui a du mal à pénétrer dans les milieux économiques en Afrique. Alors, quand il est question de la protection des œuvres artisanales, ça devient un casse-tête pour la majeure partie des acteurs. Maurice Batanga est directeur des affaires juridiques et de la coopération à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle basée à Yaoundé au Cameroun.
La loi a prévu plusieurs manières de protéger un produit artisanal. Lorsque le produit artisanal est un outil, un objet qui a un effet technique, on peut le protéger par modèle d'utilité. On peut également le protéger par dessin ou modèle industriel, c'est-à-dire c'est le caractère ornemental, c'est le caractère esthétique de ce produit artisanal qui est protégé. Mais ce produit doit être original, ce n'est pas la copie d'un produit d'un autre fabricant que vous protégez. À ce moment-là, vous faites la demande, vous joignez dans votre demande la reproduction photographique de votre objet artisanal, vous adressez à l'Office de propriété industrielle qui l'examine et qui vous délivre un titre, le certificat d'enregistrement de protection de dessin ou modèle industriel. C'est aussi protégé par le droit d'auteur. Du seul fait d'avoir créé votre œuvre artisanale, la loi vous protège. Les produits artisanaux, ça peut faire partie des communautés. C'est les produits qui n'appartiennent pas à un individu précis, mais à une communauté. On pense à des trônes ou à des cases, à certains vêtements propres, à certaines chefferies, ainsi de suite. Ce genre d'élément est protégé par la loi sur le patrimoine culturel. En ce moment-là, c'est l'État directement qui s'en occupe. Il les recense, il les classe, il les protège. Quelquefois, c'est dans des sites importants qui sont élevés au niveau du patrimoine commun de l'humanité. Autrement dit, ce n'est plus un individu qui est concerné par la protection, c'est l'État, c'est la communauté internationale. Tout cela, c'est des éléments de l'artisanat. Donc l'artisanat, ça peut partir d'un seul objet, une lance, un couteau, un coupe-coupe. Ça peut aussi être des gravures, des peintures sur des montagnes, sur des colonnes. Ça peut être la fabrication des tissus, des boubous, des pagnes. Donc l'artisanat est divers.
Il y a un problème, on a des populations en majorité analphabètes qui ne connaissent pas le droit moderne. Comment vous faites?
Oui, nous invitons les États et les administrations qui sont chargés de les encadrer à les former. Pour des produits artisanaux, il y a des ministères qui s'occupent de l'artisanat. Ces ministères-là sont appelés à se former eux-mêmes, puis à former les personnes qui sont appelées à encadrer. Si nous sommes dans le domaine de l'agriculture, il y a des administrations qui sont chargées de l'encadrement des agriculteurs. C'est à eux que nous nous adressons pour nous aider à former, à distiller le message auprès des agriculteurs pour que individuellement ou collectivement, qu'ils puissent s'organiser pour obtenir la protection et bénéficier des avantages de ces protections.
Je suis dans mon village, je vois un fonctionnaire une fois tous les mois. Comment je fais ?
Lorsque vous cultivez du maïs ou de l'arachide, ça veut dire que vous avez un produit. Mmh. Lorsque vous produisez du miel ou du poivre, vous avez un produit. Vous avez déjà ce produit et vous devez percer les marchés, le vendre. Puisqu'il faut un produit, il faut un marché. Vous voulez qu'on sache dans le marché de la localité, de votre préfecture, de votre région, que vous avez des produits de bonne qualité, il faut les distinguer. Que votre manioc soit distingué du manioc qui vient d'autres localités, d'autres producteurs. Pour faire cela, il faut opter pour des signes distinctifs. Ces signes, ça sera la marque. Vous allez déposer la marque et dans les emballages, dans le conditionnement de votre produit en allant au marché, vous apposez la marque. De telle sorte que le client ou alors les consommateurs, quand ils vont arriver au marché, ils vous font savoir que ah, le manioc de telle marque, c'est le manioc de meilleure qualité. Ils peuvent commissionner une voisine pour dire « apporte-moi du manioc, mais achète-moi le manioc de telle marque ». Parce que c'est ce manioc qui est garanti de bonne qualité. Voilà. Quand le signe est une marque bien connue,
on peut aller loin.
On peut aller loin et tout le monde retiendra la marque. Mais les produits de l'artisanat africain restent des produits anonymes. C'est toujours en vrac, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui a fabriqué, on ne sait pas quelle est la marque de tel produit par rapport à tel autre. Et les copies et les originaux sont en vrac sur le marché. Le client ne se retrouve pas, le consommateur ne se retrouve pas. Donc c'est pour les sensibiliser, attirer leur attention, qu'il y a des outils qui sont là, qui sont en place, qu'il faut seulement exploiter judicieusement pour augmenter le revenu de l'artisanat, pour porter l'artisanat plus loin.
Je vous remercie.
Merci.
Malik Mandjami Maldjam est commissaire général du Salon international de l'artisanat du Cameroun et président du collectif des commissaires généraux et des directeurs généraux du Salon et Foire d'Afrique.
Nous sommes venus dire, nous, réseau des commissaires généraux et directeurs généraux des salons et des foires d'Afrique, que la promotion de l'artisanat est très importante et que les salons et foires constituent des vitrines qu'il faut prendre au sérieux. C'est des lieux d'exposition, c'est des lieux de promotion et c'est des lieux de commercialisation. Il est utile que ces salons aient des cadres de référence pour mutualiser, pour harmoniser les efforts et pour trouver des stratégies communes.
C'est quoi ce cadre de référence ?
Par exemple, il faut aménager le calendrier des manifestations pour que l'offre soit continue et soit répartie sur toute l'Afrique, au lieu qu'on ait au même moment les mêmes manifestations du genre dans des pays différents, par exemple. Les artisans sont récompensés dans l'une et l'autre manifestation et leur promotion reste réduite à cette échelle-là.
Je vois si j'ai compris. Par exemple, si je suis primé en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, ma notoriété s'arrête à l'intérieur de ce pays. Alors que si je suis primé au niveau de tous les pays qu'au départ, là j'ai accès à un marché plus vaste.
Oui, c'est vrai. Là, l'idée qui est recherchée, c'est de permettre à l'artisan africain, aux consommateurs des produits de l'artisanat et aux producteurs de pouvoir, à quelque niveau que ce soit, sur le continent africain, avoir accès à un maximum de visibilité et à un maximum d'impact commercial.
De toute façon, pour ce qui est de la promotion, de la commercialisation, c'est votre organisme qui est en première ligne aujourd'hui.
Et c'est pour ça que nous demandons à nos autres confrères de mettre sur pied des stratégies globales, d'abord pour attirer les acheteurs dans nos manifestations, pour la labellisation de nos produits, pour une politique de prix, pour un certain nombre de dispositions comme celle-là qui sont bénéficiaires et favorables à tout le monde, à l'acheteur comme au vendeur, au pays comme aux producteurs, aux artisans comme aux promoteurs.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, à bientôt.
Pour les artisans présents à la rencontre d'Abidjan, il faut repenser toute la politique. Ngolo Bouaré est directeur des services techniques de la Fédération nationale des artisans du Mali. À Abidjan, il est là au titre de la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest.
Nous avons jugé nécessaire de créer cette fédération parce que quand on n'est pas là, on n'est pas écouté.
Alors tout à l'heure, je vous ai écouté, j'ai pris des notes. Vous avez dit que l'artisan ne bénéficie pas du soutien, il n'y a pas de promotion. Les budgets sont en dessous de 0,5%.
Oui, c'est vraiment notre point de vue au niveau de la Confédération que, de façon globale, le budget consacré au développement du secteur de l'artisanat est insuffisant dans tous les pays africains.
Et vous avez dit que l'artisanat africain est financé par l'extérieur ?
Oui, c'est les partenaires techniques et financiers qui financent les activités de l'artisanat au niveau de nos différents pays.
C'est pour ça que vous avez fait cette fédération au niveau ouest africain, pour d'abord se structurer au niveau de chaque État et se structurer au niveau sous-régional pour pouvoir parler aux décideurs.
Très bien. Oui, les fédérations au niveau national d'abord sont des entités pour permettre aux artisans de parler le même langage. Ensuite, les fédérations au niveau des différents pays se sont constituées au niveau sous-régional ouest africain pour constituer ce qu'on appelle la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest. Au jour d'aujourd'hui, on va parler du Conseil mondial de l'artisanat et la participation de l'Afrique à ce conseil-là. Donc, vous voyez, cette hiérarchie, cette méthodologie d'organisation nous importe beaucoup parce qu'il faut partir du bas vers le haut pour que les décideurs puissent avoir des interlocuteurs efficaces et représentatifs à tous les niveaux.
C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, on va toujours parler de vous,
ah oui,
de vous, mais sans vous.
On parlera de l'artisanat à la place des artisans et on n'est pas partant pour ce système d'organisation.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Casimir Degbé, administrateur d'action culturelle, spécialité gestion du patrimoine, est actuellement directeur de l'artisanat et des organisations professionnelles au Bénin. Lui pointe un paradoxe. On sait aujourd'hui que l'artisanat est le meilleur vecteur pour la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Pourtant, ce secteur est le parent pauvre dans les programmes étatiques.
On a trop tâtonné et on a compris maintenant que c'est un secteur créateur de richesse et d'emploi. Nous sommes en train de faire beaucoup de réformes actuellement, et surtout avec le code communautaire de l'UMOA qui est sorti tout récemment. Donc le Bénin est en train de prendre des tests, des règlements et autres pour pouvoir se conformer au nouveau code de l'UMOA dans le secteur de l'artisanat. Donc je pense que ce code vient régler un certain nombre de dysfonctionnements au niveau du secteur de l'artisanat.
Quel dysfonctionnement ?
Par exemple, l'artisan, il n'est pas bien valorisé.
Il n'a pas de statut ?
Et justement, il n'a pas de statut. L'artisan n'a pas de statut. L'artisan ne peut pas postuler à un marché public. Mais je pense qu'avec la disposition du code de l'artisanat, aujourd'hui, l'artisan béninois peut postuler à des marchés publics.
C'est de comprendre, c'est-à-dire que voilà, bon, je suis une administration, que je sois local ou territorial, il y a des gens sur mon territoire qui fabriquent des meubles, mais je préfère les faire commander de l'extérieur.
Voilà ce qui se passait. La nouvelle orientation, c'est que vous êtes gestionnaire de crédit, vous êtes préfet, vous êtes maire, les fournitures de bureaux, les meubles et autres, vous n'avez plus le droit d'aller commander à l'extérieur. Ou comme on le dit dans notre jargon, consommant local. Donc vous êtes contraint de procurer ces meubles à hauteur de 60% dans la commande de ces meubles. Donc, c'est un avantage pour les artisans.
Mais d'un autre côté, si l'artisan n'a pas de statut, il n'a pas accès au crédit, il ne peut pas aller voir une banque.
Oui, je pense que nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens. La direction de l'artisanat et des organisations professionnelles a beaucoup sensibilisé les artisans dans presque toutes les communes du Bénin et puis a expliqué le processus par lequel il faut désormais s'inscrire au registre d'inventaire, qui est très important. L'inscription au registre d'inventaire vous permet, n'est-ce pas, d'avoir la carte professionnelle d'artisan et vous postuler au marché public.
Si je veux me faire répertorier, je m'adresse à qui ?
Vous devez vous adresser à la direction de l'artisanat et des organisations professionnelles. Vous devez vous adresser à la structure fêtière, QLUCIMB, Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin.
Mais vous êtes à Cotonou, à Porto Novo, et moi, je suis dans mon village.
Bon, je pense que en dehors de la structure fêtière, Il y a les instituts secondaires qui sont dans chaque département. Donc, que nous appelons uniquement les CIM, les chambres interdépartementales des métiers. Donc, nous avons six départements. Donc, chaque département a une structure. Mais cette structure aussi a des démembrements et au niveau des communes, quand même pour pouvoir lui rendre compte au fur et à mesure. C'est ça que nous appelons le collectif des artisans.
Alors, nous sommes à Abidjan, réunion des ministres du Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la délégation béninoise est venue dire?
Je pense que nous sommes arrivés pour dire qu'il est temps que nous pensions sérieusement au secteur de l'artisanat. Pour promouvoir l'artisanat dans notre pays, demander aux membres du Côte d'Ivoire désormais que l'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emploi. Donc c'est un secteur que nous devons dire aux ministres qu'ils doivent relayer plutôt l'information au niveau gouvernemental pour que nos gouvernants respectifs nous prennent au sérieux pour dire que désormais le secteur de l'artisanat n'est pas un secteur négligé. J'ai toujours tenté de dire partout que un jour, que quand le secteur de l'artisanat fait grève, le pays est mort. Donc c'est un secteur qui est à prendre au sérieux.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Nous étions à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 8e conférence des ministres du Comité de coordination et de promotion de l'artisanat africain, ou CODEPA. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, le Coq Chante.
Zaza, c'est où ça?
Au nord-est de la Côte d'Ivoire.
C'est quelle ethnie?
C'est les Brons. C'est une communauté constituée de Brons, de Koulango et pour certains des Agnis.